101.7 FM.
Ce soir, la Société historique Pierre de Sorel vous propose une conférence sur le mariage mixte des nobles après la conquête, entre mythe et histoire. On est chanceux parce qu'on a la conférencière au bout du fil, André.
Oui, moi, quand j'ai vu ça passer, j'ai trouvé ça très intéressant. On dirait qu'il y a des mythes là-dedans, il y a plein de questions qui me sont passées par la tête. Et puis, c'est quelqu'un qui a complété une maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke et ses recherches de maîtrise portent sur les mariages mixtes entre la noblesse canadienne et les individus non francophones. Après la conquête, on parle de 1760 à 1800. Karine Pépin qui sera à 19h ce soir à la Société historique Pierre de Sorel et est avec nous au bout du fil. Bonjour Madame Pépin.
Bonjour.
Est-ce que c'était un phénomène si important que ça? Est-ce qu'il y en avait beaucoup des mariages entre personnes de minorités différentes? Ou...
Bien, pour la noblesse, il n'y en avait pas tant que ça. En fait, j'étais étonnée. J'en ai trouvé seulement 38 répartis en 40 ans. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même non négligeable de mon côté parce que ça représente quasiment 9% de tous les mariages impliquant un noble à cette époque-là. Donc, c'est pas négligeable non plus. C'est pour la noblesse parce que moi, j'ai étudié seulement ce groupe social-là et ça reste à voir pour les autres groupes sociaux.
Mais quand on parle de noblesse, on parle de quoi? Parce que là, on est encore dans le régime seigneurial?
Oui, c'est ça, le régime seigneurial continue après la conquête. Et dans le fond, la noblesse, hein, c'est un groupe très privilégié dans la société. À cette époque-là, la société était très hiérarchique. Et la noblesse, c'était celui-là, c'était le groupe qui était là en haut là, de la hiérarchie. Il y avait beaucoup de privilèges dans la société. Et en revanche, ils devaient servir le roi.
Et là, on imagine qu'il y avait des stratégies familiales en arrière de ça.
Oui, tout à fait, mais j'ai pas réussi à trouver vraiment des stratégies très claires. J'ai plus trouvé peut-être une volonté de rapprochement envers les nouveaux arrivants, là. Donc, je pense que le mariage faisait partie là, d'une stratégie plus globale de rapprochement avec les nouveaux arrivants, dont le mariage était un élément là, parmi d'autres.
Et les nouveaux conquérants, en fait, c'était ça, c'était de se rapprocher du pouvoir?
Exactement. Parce que justement, la noblesse, elle est dépendante des autorités pour garder son statut social. Donc, elle voulait vraiment pas baisser là, dans l'échelle sociale. Alors, elle voulait essayer de consolider sa position auprès des nouveaux conquérants, justement pour garder sa place.
Quitte à renier une partie de sa culture ou même de sa religion?
Ouais, je dirais qu'ils reniaient pas nécessairement leur culture ou leur religion parce que oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de mariages protestants, mais souvent les conjoints restaient après leur mariage, ils restaient fidèles à leur religion respective. Donc c'est quand même assez particulier là, dans le couple, il y a une catholique, il y a un protestant, puis chacun reste fidèle à leur religion.
Ben, il y avait des petits mensonges quand même, j'imagine.
Des mensonges, qu'est-ce que vous voulez dire?
Au curé, j'imagine, parce que quand on se marie, on est dans une religion particulière.
Oui, dans le fond, c'est que quand on se marie devant un ministre protestant, ça semblait pas là être un problème pour eux, pour les protestants, et ils exigeaient pas une conversion du conjoint catholique. Alors que si on voulait se marier devant un prêtre catholique, ben là, le prêtre catholique allait demander à ce que le conjoint protestant se convertisse, puis il était toujours suspicieux là à savoir les raisons pourquoi il se convertissait. Ça les inquiétait pas mal, le clergé catholique.
C'était pour avoir la fille, ce boulot.
Oui, c'est ça. Mais ça les inquiétait quand même. Ils se demandaient s'ils étaient vraiment sincères dans leur conversion.
Ça veut dire que... Moi, j'ai quelqu'un qui m'a déjà dit que les Anglais avaient été des conquérants assez polis parce qu'ils nous avaient laissé notre code civil. Et là, ce que je comprends avec ce que vous venez de dire, c'est qu'au niveau religieux également, on cherchait pas le trouble non plus là-dessus.
Non, mais c'est sûr qu'ils voulaient... les dirigeants de la colonie, ils voulaient là, qu'il y ait le plus de protestants possible dans la colonie. Là, ça, on ne se le cachera pas qu'ils voulaient un peu assimiler, si on veut. Mais en pratique, là, les mariages mixtes, vraiment, là, il n'y avait pas là, d'assimilation par rapport à ça. Là. Souvent, ils se mariaient devant un ministre protestant, mais ils gardaient par la suite là, leur religion respective.
Et est-ce que c'était à sens unique au niveau du genre? Est-ce que c'était tout le temps une fille francophone ou des fois c'était un garçon francophone aussi qui allait de l'autre côté?
Oui, il y avait des garçons francophones, ils sont très peu nombreux. Par contre, c'est une majorité de filles, mais il y en avait des garçons. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'il y avait des comportements différents des filles. Donc, au niveau de l'origine géographique, par exemple, ils vont choisir des conjoints qui sont nés de parents migrants, mais qui sont nés dans la colonie. Donc, au lieu d'épouser des migrants directement, et aussi au niveau de la religion du mariage, ils vont, quand c'est des fils francophones, bien, ils vont se concentrer beaucoup plus sur le catholicisme, tandis que les filles vont se marier plus devant les protestants. Là. C'est vraiment intéressant de voir. Il y en a des fils qui ont des comportements différents.
Karine, qu'est-ce qui vous a poussé à étudier ce sujet-là en particulier?
Bien, c'est quand même drôle. En fait, c'est en lisant un roman. Et, d'ailleurs, je trouve que l'auteur, elle habite à Sorel. C'est Sonia Marmine.
Oui.
La série Cœur de Gaël, donc le troisième tome, là, elle parle d'une liaison là entre un soldat écossais puis une jeune bourgeoise de la ville de Québec. Moi, ça m'avait fascinée. Puis j'étais toujours intriguée par cette période-là, de toute façon, de la pré-conquête. Donc, je me suis dit, mais ça serait un sujet intéressant à la maîtrise, à pousser un peu plus loin, à savoir s'il y en a vraiment eu des mariages, puis comment ça s'est passé, comment un peu ces deux groupes-là se sont adaptés ensemble. Parce qu'évidemment, ils se sont pas, les Anglais et les Français se sont pas juste chicanés. Hein? Alors, je me suis dit, ben c'est très intéressant de voir un autre aspect, là, celui des mariages.
On aurait même pu ajouter les Autochtones là-dedans, parce qu'il y en a eu aussi, j'imagine.
Oui, mais c'est un tout autre contexte là, avec les mariages avec les Autochtones, donc j'ai préféré là, ne pas les étudier, mais oui, ça serait vraiment quelque chose qu'il faudrait étudier.
Il y a eu des films puis des séries sur ce sujet-là aussi. Hein.
Oui, exactement. On aurait dit que ça fait partie un peu de l'imaginaire collectif des Québécois, donc c'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant de creuser un peu plus là-dessus.
D'accord, ben on invite les gens à aller creuser avec vous justement à cette question-là à 19h ce soir à la Société historique Pierre de Sorel au 6A rue Saint-Pierre à Sorel-Tracy, c'est dans les locaux attenant au Biophare. Alors, merci beaucoup, Karine Pépin, qui vous offre cette conférence. Est-ce que vous avez, vous semblez assez jeune là, à votre voix, mais est-ce que vous avez écrit quelque chose qu'on pourrait lire là-dessus ou ça s'en vient? Ou...
Bien, dans le fond, mon mémoire de maîtrise est disponible en ligne sur le site de l'Université de Sherbrooke. Sinon, j'ai écrit aussi un article dans la revue Grand Public qui s'appelle « Cap au diamant ». Donc, c'est un article de quelques pages. C'est sorti cet été, dans le fond.
OK. Alors, on pourra faire les recherches là-dessus si jamais on veut en savoir plus. Et on va inviter les gens à être là à 19h ce soir à la Société historique Pierre de Sorel. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Karine Pépin, qui est conférencière et qui vient de compléter sa maîtrise à l'Université de Sherbrooke.
Les tarifs là pour la conférence ce soir...
C'est pas
pour,
cher, hein?
Ben, non, pour les membres, c'est 2,5 $. Pour les membres étudiants, c'est gratuit. Pour les étudiants non-membres, 3 $. Et pour les non-membres, comme toi et moi peut-être, Valérie, les impies, alors c'est un gros 4 $.